saumon, cuisson. C'est incroyable l'évolution. Entre 1900 et 1950, là, je sais pas si un jour, parce que là, on va arriver et on va dire, ouais, mais entre 1970-80 et 2000, il y a quand même eu une évolution incroyable avec Internet, les ordinateurs, l'automatisation, les communications. Fait que ça va être dur à quantifier, mais à mesurer. Mais pour en arriver là, je vous dis que le début des années 1900, c'était quand même quelque chose d'extrêmement...
Puis t'as pas de moyens, là, dans ce temps-là. Tout ce qu'on a aujourd'hui avec Internet pour nous amener plus tard, ça a été amené par les années passées, là.
Exact.
Alors qu'eux autres, ils avaient pas, je dis qu'il y avait pas de recul-là. C'est juste qu'ils ont pas la même évolution technologique qui les a précédés. Ouais, mais il y en a.
Mettons, là, il inventait de quoi, là, au niveau de la nourriture, là. Ouais. Un des défis qu'il y avait, c'est-tu les biscuits soda que j'ai écouté, là, et le défi qu'il y avait, c'est qu'il moisissait en dedans de 4 jours.
Oh.
Fait que, tu sais.
La conservation.
les gens qui ont inventé les papiers cirés, par exemple, pour commencer à briller les aliments, ça a été toute une révolution, mais ça a pris du temps.
Oui.
Et, j'écoutais l'histoire de la famille Mars. Et c'était fort intéressant parce que le père, Frank Mars, lui, était un confiseur du côté de... Puis oubliez pas aussi qu'il y a rien qui se vend ailleurs que l'autre bord de la rue de mon magasin ou de ma shop, tu comprends?
Il y a rien par Internet, là.
Non, c'est ça. Puis les États-Unis ne sont même pas reliés coast-to-coast à cette époque-là, au début du 1900. Là. Fait que... Là, t'inventes quelque chose. Donc, mettons, le pain, les friandises, tout était local. Fait que tu dis, ah, j'aime ça. T'es arrivé à New York, il y avait une affaire. T'allais à Chicago, c'était complètement différent. C'était autre chose. Ça se vendait pas comme ça. Donc, Frank Mars, lui, il est à Chicago. Il a eu des enfants, mais il a mis toujours ses énergies sur l'entreprise. Puis à cette époque-là, c'était rare. Fait qu'il s'était séparé.
Ouais.
De sa femme. Donc, il a à peu près pas vu grandir ses enfants jusqu'au moment où son fils, Forrest, est emprisonné. Lui, Forrest, il installait des... tu sais, quand il collait avec de la colle des affiches sur les murs pour...
Pour les spectacles,
des affaires comme ça. C'était illégal, évidemment, parce que c'était pas des endroits d'affichage. Il faisait ça sur des murs dans la ville de Chicago.
Avec un gros rouleau, là.
C'est ça. Puis il s'est fait arrêter. On était au début de 1900. Et il s'est fait arrêter, il a fait de la prison. C'était pas un crime majeur, là. Et c'est son père qui a décidé de reprendre contact avec son fils et qui est allé le sortir de prison. Fait que il est allé le chercher, il l'a sorti de là, vu que c'était très, très mineur comme accusation. Ils sont allés prendre un café ensemble et ils ont commencé à jaser de ce que le paternel faisait. Et à ce moment-là, il a commencé à travailler avec son père. Puis son père faisait des petits chocolats. Pas du chocolat. Il faisait pas de chocolat, lui. Il faisait vraiment des petits bonbons. Et c'est là qu'il s'est aperçu, son fils, Forrest, s'est aperçu que les milkshakes étaient très, très populaires à cette époque-là. Puis souvenez-vous que ça va aller jusqu'en 1950 seulement, autour de 50, quand McDonald's va arriver avec un milkshake en poudre, donc et qui va populariser encore plus le milkshake, qui, à l'époque, va être dit, ben c'est pas un vrai. Donc, les vrais milkshakes étaient quand même très, très populaires, et c'était dans les petits cafés...
Les diners,
c'est ça. Fait que... Et lui, le fils, dit, c'est vraiment bon des milkshakes. Comment on pourrait faire un bonbon qui goûte la même affaire? Et c'est là qu'ils vont commencer et qu'ils vont trouver du chocolat et qu'ils vont enrober une substance qui va se rapprocher du milkshake. Et ça va donner la première barre de chocolat de la compagnie Mars, donc de Frank Mars, qui va s'appeler la Milky Way. Vous vous souvenez de ça? Ben, ça existe encore, je pense?
Oui.
Donc, ils vont...
C'était bleu et blanc, je crois.
Ça se peut, il était vert à l'époque en tout cas. Mais c'est vrai que c'est bleu et blanc maintenant, t'as absolument raison. Donc, ils vont créer cette balette de chocolat-là et ils vont réussir même à la produire de façon industrielle. Ça va aller très, très rapidement. Et ils vont devenir un concurrent de Hershey très important. Mais Hershey, à l'époque, fabrique du chocolat, mais ils font pas de chocolat...
Ils sont pas gros, là.
Mais c'est gros, mais ils font juste du chocolat. Ils font pas du chocolat avec de quoi à l'intérieur.
Ah.
Et donc, la Milky Way va devenir la première et va devenir une inspiration. Et Frank Mars va faire évidemment fortune avec ça. Ça va aller très, très bien. Puis, ils vont tenter de créer toutes sortes de produits. Forrest, lui, est un peu le génie derrière ça, mais un génie un peu tout croche, tu comprends? Et il va se chicaner avec son père. Pas mal à part ça. Il va exiger des... Je pense que son père, il est aménagé, là. Il va exiger des parts de l'entreprise à son père parce que il a eu l'idée de départ de d'enrober le milkshake solide de chocolat. Son père va refuser. Alors, il va le sacrer dehors.
Oh.
Et il va s'en aller en Europe. Et là, il va garder son idée de création. Et il dit le caramel. Le monde aime le caramel.
Oui, ben oui.
Alors, faut que je fasse un mélange de nougat, de caramel, puis que j'enrobe ça de chocolat. Et c'est là qu'il va s'associer avec une compagnie européenne qui fabrique du chocolat, qui est pas Hershey. Et il va demander, pouvez-vous me fournir du chocolat? Je veux enrober tel produit. Et là, il va créer la barre Mars. Mm. Et donc, c'est pas le paternel, mais c'est vraiment le fils qui va créer la barre Mars. Ça va devenir évidemment extrêmement populaire. C'était une des barres de chocolat les plus vendues dans le monde à travers les années. Donc, Forrest Mars va revenir en Amérique, va continuer de populariser la barre Mars. Et on est à la fin des années 40. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui aura vu en Europe que les soldats se nourrissaient de genre d'arachides enrobés. De sucre cuit et que c'est donné de l'énergie puis c'était très très bon pour eux et tout ça, et il va s'apercevoir que c'était bon et que c'était efficace, puis lui il dit pourquoi on rajoute pas de chocolat ça, et c'est là qu'il va créer une genre de, une petite bille de chocolat avec un arachide au milieu puis une autre substance et qui va donner une couleur à ça. Donc il va inventer ça, mais il est incapable de la produire. Alors il va aller voir Hershey. Puis il va dire au directeur de Hershey, non pas M. Hershey, là, mais son directeur général, il va lui dire, regarde, j'ai inventé ça, goûte à ça, mais je suis pas capable de la produire, regarde. Et le directeur va goûter à ça, puis c'est pas un fou, là. Il va dire, c'est fantastique. Il dit, il faut produire ça, mais il dit, pas ici, pas avec Hershey. Alors le directeur va démissionner de chez Hershey, il va s'associer avec Forrest Mars, et ils vont lancer ce qu'on va appeler les M&M d'aujourd'hui. Ça s'appelle M&M, pas pour Mars et Mars, mais pour Murray and Mars. Donc, ça deviendra les M&M, qui va devenir, et la révolution des M&M, ça a été à cause d'un film, c'est-tu dans E.T.?
Oui.
C'est dans E.T., hein, qu'il mangeait des M&M?
Oui.
C'est ça, là, ça aurait été le breakdown de la compagnie. Ah, ouais. Ça va exploser au moment où E.T. Va manger des M&M. Est-ce que notre invité est en ligne?
Absolument.
On va aller le rejoindre tout de suite parce que, vous le savez, ce qui a frappé l'Amérique au cours des derniers jours, c'est cette tragédie survenue au Texas à Uvalde, c'est ça, Uvalde, plus précisément au Texas, dont où une tuerie a fait 19 enfants victimes d'un tireur fou, deux adultes, deux enseignantes qui sont également décédées dans cette tragédie-là. Pour nous en parler, il est journaliste à Cogeco, il est sur place, on va le rejoindre, Philippe Bonneville. Philippe, bon matin.
Bonjour Stéphane.
J'imagine que quelle grandeur, quel genre de localité c'est Uvalde?
Pour bien situer les gens là, de Québec, là, Uvalde, c'est une petite ville. C'est 15 000 habitants au maximum. Et on est dans un milieu très, très rural. Là. Tout autour d'ici, ce ne sont que des champs, des terres agricoles. Beaucoup de ranchs, évidemment. On est au Texas. Et pour encore mieux situer les gens, on est à 1h30 de route à l'ouest de San Antonio. Donc, on est vraiment dans le côté ouest du Texas. Et à quelques dizaines de kilomètres d'ici, c'est la frontière avec le Mexique. Donc, ça explique pourquoi la très vaste majorité des citoyens ici à Uvalde sont d'origine hispanique. Et moi, je me trouve, devant l'école primaire où a eu lieu la tragédie. C'est ici que je suis ce matin. J'étais là également hier soir. Il y a une vigile qui s'est déroulée hier soir pour rendre hommage à ces 21 victimes-là. Plusieurs dizaines de personnes qui se sont rassemblées pour amorcer une sorte de deuil collectif, Stéphane, parce que c'est ça que les gens vivent, là. Super, incompréhension, tristesse, colère. Ce sont des sentiments qui habitent les gens ici. Et il y a, tout au long de la soirée hier, des gens qui sont venus déposer des peluches, des toutous, là, des ballons, des gerbes de fleurs, 21 croix également, des croix blanches qui ont été installées sur le terrain de l'école où je me trouve ce matin. Et sur chacune de ces croix-là, on a inscrit le nom d'une des victimes. Donc, quand on regarde ça ici devant moi ce matin, les gens qui viennent, eh bien, c'est certain qu'on est pris par l'émotion parce que de voir ça, ces croix blanches, sur un terrain d'une école, c'est pas là que ça devrait avoir. On ne devrait pas vivre ce genre de moment-là.
Dans une petite localité comme celle-là, puis je me souviens sa date, là, mais je me souviens de la tragédie des éboulements qui avait tué des gens à Saint-Bernard, là, le club. Eh bien, tout le village, tout le monde du village était connaissait quelqu'un, même avait un lien de parenté avec quelqu'un. J'imagine qu'à Uvalde, c'est la même chose. Tout le monde, dans les 15 000, soit avait une connaissance ou même un membre de la famille éloignée qui est impliqué dans cette tragédie-là.
Oui, parce qu'à peu près tous les enfants passent par cette école-là lors de leur cheminement scolaire. Mmh. C'est une école d'environ 500 élèves et ce sont les élèves principalement de quatrième et troisième et quatrième année qui fréquentent cette école-là. Donc, à Uvalde, lorsqu'on a des enfants, ben on envoie notre enfant à cette école-là à un certain moment dans son cheminement scolaire. Et moi, justement, j'ai parlé avec une jeune fille de 9 ans, Stéphane, une jeune fille qui se trouvait dans l'école au moment du massacre. Elle était dans une autre classe, là. Elle a entendu les coups de feu, elle était terrorisée. Son enseignante a dit aux élèves de ne pas faire un seul son, de ne pas faire de bruit, là, de ne pas parler, de ne même pas pleurer, même si elles étaient terrorisées, ces jeunes filles-là, pour ne pas attirer l'attention du tireur. Je laisse entendre un extrait de cette entrevue que j'ai réalisée avec elle.
I heard gunshots. Miss Santos opened the door and told us all to get in. And so, like, she said to sit down and be at a level zero, because, like, not to talk, because if we were talking so loud, he could have just came in and started shooting at people.
Mmh. Entre toi et moi, Stéphane, c'est pas normal là, qu'à 9 ans, on vive ce genre de choses-là. Elle le dit elle-même. I heard gunshots. J'ai entendu des coups de feu. Et par la suite, elle a suivi les instructions de son enseignante. Mais ici, tu sais, on est au Texas, on est aux États-Unis. Au Québec, là, on a souvent des opérations, des pratiques, si on veut, dans les écoles. Lorsqu'il y a un incendie, ces choses-là, on se pratique à évacuer. Ici, régulièrement, les élèves, même aux primaires, font des entraînements, s'entraînent à la présence d'un tireur actif. Donc, c'est même pas du nouveau, malheureusement, c'est triste à dire, là, mais c'est même pas du nouveau pour eux à être confinés et à être habitués à savoir quoi faire lorsque ces choses-là arrivent. C'est quand même incroyable. Et j'ai aussi pu discuter, Stéphane, hier soir avec une femme. Cette femme-là, sa nièce a été tuée dans l'école. Cette dame-là, elle était en larmes quand elle est venue se recueillir ici et elle a accepté de nous parler de sa nièce qui a été lâchement assassinée.
She will always be part of my family. She was a sweetheart from what I've known. She done everything. She loved basketball from what I've saw. She was just a sweetheart taken from us at a young age.
Mmh. Ouais, une petite fille qui était sportive, qui s'est fait enlever la vie beaucoup trop rapidement, qui va toujours demeurer, évidemment, dans le cœur de cette famille-là. Mais ça te montre à quel point là, il y a beaucoup d'émotions ici depuis que les événements se sont produits.
Est-ce que on est à analyser un peu pourquoi ça arrive? Tu sais, par exemple, l'accès, ici au Québec, on pourrait entrer dans certaines écoles, j'imagine, mais la majorité des écoles sont quand même bien protégées par des gens à l'entrée, des portes verrouillées. Est-ce qu'on questionne un peu qu'est-ce qui a pas marché pour que le tireur puisse avoir aussi facilement accès à l'école?
Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est encore pire qu'au Québec. Hein? Les portes sont vraiment verrouillées. Il y a souvent un gardien de sécurité qui monte la garde à l'entrée principale des écoles. Là, ce qu'on comprend, c'est que ce tireur-là aurait réussi à entrer par une porte arrière. Est-ce que cette porte arrière-là était déverrouillée? Comment a-t-il pu pour réussir à entrer? Est-ce qu'il savait que cette porte-là serait déverrouillée et qu'il aurait donc accès à l'école? On en apprend un peu plus aussi hein, sur les agissements du tireur avant et pendant le massacre. Hier, les autorités qui ont révélé que le tireur est demeuré dans l'école entre 40 et 60 minutes. C'est long là quand même, c'est une longue période de temps, 40 à 60 minutes à l'intérieur des murs de l'école. Et il y a une grande partie de ce temps-là qu'il a passé barricadé dans une classe. Parce que tout s'est joué dans une seule et même classe. Toutes les victimes ont été tuées dans la même classe. Et c'est au bout de 40 à 60 minutes qu'un membre des forces de l'ordre a réussi à abattre le meurtrier. Et tout ça, Stéphane, avait été vraiment planifié. C'est pas un coup de tête, parce que 11 minutes avant d'entrer dans l'école, cet homme-là a envoyé un message texte à une adolescente en Allemagne. C'est une adolescente qu'il avait rencontrée sur Internet. Et le message texte, il était sans équivoque. Ça disait « Je m'en vais tirer dans une école primaire ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait ça avec des armes d'assaut qu'il a achetées lui-même, tout à fait légalement. ça s'est passé la semaine dernière, l'achat des armes. Il venait d'avoir 18 ans. Mais imagine, on est au Texas, là, ici, acheter une canette de bière dans un dépanneur. Ben, il faut avoir 21 ans, faut montrer une carte d'identité. Mais acheter deux armes d'assaut, des semi-automatiques, si on peut faire ça, pas à 21 ans, à 18 ans, sans trop de difficultés.
Bon, nous, on trouve ça scandaleux, cette chose-là, puis on en a parlé hier, évidemment, entre nous.
Oui.
Est-ce que eux, ils ont la même réaction? Parce que je suis allé au Texas il n'y a pas si longtemps, puis, tu sais, les commerces doivent l'afficher dans la porte, ne pas le rentrer avec son revolver. Ça veut dire que le port d'armes là-bas, et on le sait tous, là, c'est très, très fréquent, puis on veut porter l'arme justement pour se défendre contre ce genre d'individus-là. C'est une bizarre de mentalité, mais c'est comme ça. Mais est-ce que la population commence à révolté de cette facilité-là d'avoir accès aux armes à feu?
Pas ici au Texas, c'est ça. Moi, j'étais à Newtown. Tu te rappelleras là, la tuerie qui avait marqué l'Amérique du côté de l'école primaire Sandy Hook au Connecticut il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour. J'étais allé là-bas et il y avait une montée là, là-bas. Les gens là, étaient en furie. Les gens voulaient qu'il y ait un changement sur les lois concernant le port d'armes, l'achat des armes. Ici, on est dans un autre monde. Hein. On dirait qu'on est dans un autre pays, au Texas. Là, tu l'as dit, tu es venu ici, toi aussi. Ici, le port d'armes, c'est très normal. Et les gens ne semblent pas, en tout cas pour l'instant, du moins, malgré l'ampleur de ce massacre-là, il y a personne qui dit « Ah, ben là, il faudrait avoir moins d'armes en circulation. » Au contraire, il y a des gens qui m'ont dit que ça démontre que les gens à l'intérieur de l'école, même les enseignants, devraient probablement être armés pour pouvoir protéger les élèves dans une situation semblable. On est vraiment ailleurs par rapport à notre vision des choses au Québec.
Philippe, vous nous avez dit tantôt que la majorité des gens de cette municipalité-là sont passés par cette école-là. Est-ce que c'est le cas du tireur? Est-ce que lui, si tout le monde de la localité connaissait quelqu'un dans cette école-là, est-ce que lui, il était connu des membres de la communauté?
On sait qu'il avait décroché de l'école il n'y a pas si longtemps. Ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait probablement fréquenté cette école-là il y a quelques années. Donc ça, c'est pas encore 100% confirmé par les autorités, mais oui, il aurait un lien, disons, avec cette école-là. Et ça pourrait expliquer un peu son geste, mais en même temps, on ne connaît pas le mobile. Pourquoi voulait-il s'attaquer à de jeunes enfants? Il y a un de ses amis qui a révélé, je pense que c'est au Washington Post, que le tireur, dans sa jeunesse, avait souvent été victime d'intimidation, s'était fait niaiser, comme on dit en bon québécois, à plusieurs reprises, et que peut-être que c'était une façon de se venger, si on veut. Ce serait peut-être ça qui expliquerait son geste. Mais pour le reste, là, pourquoi avoir tiré sa grand-mère? Parce que juste avant d'arriver ici, là, avant d'arriver à l'école, ce qu'il a fait, il a tiré une balle dans la tête de sa grand-mère. Sa grand-mère est en dans un état critique là, dans un hôpital de San Antonio présentement. Donc, pourquoi toute cette violence, pas juste à l'école, mais même pour sa grand-mère, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'incompréhension et l'enquête se poursuit, évidemment. Et il y a une scène de crime devant moi. Là, je vois des gens du FBI, je vois des gens Rangers là, du Texas. Il y a des policiers locaux également qui sont ici, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école, parce que la scène de crime, elle est quand même assez vaste et il y a toujours cet important périmètre de sécurité.
Donc, beaucoup de détails. Merci beaucoup, Philippe. Si vous avez le temps, êtes-vous déjà allé à San Antonio? Philippe?
Ah, excusez-moi, je croyais. En fait, je suis passé par San Antonio pour m'en venir ici, en fait, parce que je ne suis pas resté très, très longtemps, là, parce que j'ai mon vol atterrissait du côté de San Antonio et par la suite, j'ai pris une voiture pour faire les 90 minutes de route pour me rendre ici à Uvalde.
Vous ferez croire à vos patrons qu'il y a eu un retard pour votre vol. Prenez une journée de plus à San Antonio. Ça a été mon coup de cœur de ma découverte au Texas. Là, le Riverwalk, là, c'est un endroit extraordinaire. Vraiment, la plus belle ville que j'ai vue au Texas, c'est San Antonio. Alors, si vous en profitez quelques temps, ben vous m'en donnerez des nouvelles.
Ben merci pour le conseil touristique, Stéphane.
Bonjour Philippe, au revoir. Philippe Bonneville, notre journaliste sur la route, donc qui est à Uvalde.
Stéphane.
Oui, il fait dire Pierre Martineau de pas donner de trucs pour ses employés là.
Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand tu reviens de, tu sais, ça doit être très très difficile de faire ce qu'il fait. Moi, honnêtement. Puis là, en plus de le faire et de le répéter à toutes les stations du groupe Cogeco.
Ben c'est pas ça le pire.
Le
pire bout là. C'est certainement d'enregistrer la clip avec la kid de 9 ans. C'est terrible. Ouais. moi, ce qui m'a marqué, là, c'est peu importe, c'est le, on aborde ce sujet-là avec un enfant. Lui, Philippe, là, il est arrivé avec le micro en dessous du nez de l'enfant, puis l'enfant, il savait de quoi il parlait. Mm-hmm. C'est ça qui n'a pas d'allure. C'est ça qui a, et comme il l'a dit, là, ces enfants-là sont, entre guillemets, préparés. Okay. Imagine. Là.
Ouais,
moi, c'est ça qui m'a marqué.
Et dans un village comme ça, 18 enfants, là, c'est le présent et le futur du village qui est hypothéqué. Là.
Oui, absolument. Ouais, ça va marquer. Regarde, on parle de Sandy Hook encore et des autres écoles. Et là, il y a de plus en plus d'images qui sortent. Actuellement, il y a des images qui ont été prises par CNN sur Facebook de quelqu'un qui a filmé avec son téléphone l'entrée du tireur dans l'école. Et puis là, on apprend...
Il pose des questions sur les policiers, Stéphane, ben, parce qu'il y avait trois policiers armés. Okay. Trois policiers armés dans l'école. Puis comme Philippe l'a raconté, ça a été long. Il est resté longtemps dans l'école.
Il y avait trois policiers, tu penses, dans l'école?
Ce matin, ça sort.
Ah, ouais.
Il y en avait un, puis le policier a appelé du renfort.
OK.
Pour ça que ça a fini vite. Était au courant.
Mais ça n'a pas fini vite.
Mais ça a été long.
C'est ça. Ça a pris 45 à 60
Qu'est-ce
minutes.
Qu'il faisait?
Un relatif vite, là, dans le sens, ouais. Je comprends que ça peut être très, très long, mais c'est parce qu'il faut le trouver, là.
C'est ça. C'est très, très complexe. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, parlait d'une pratique à une école de Lévis. J'ai pas vu le message, là.
Ouais,
mais...
Dit, à Lévis, on pratique tireur actif. C'est aussi fait dans les écoles primaires, mais pour pas les inquiéter, on dit qu'on se pratique au cas où il y aurait une moufette dans l'école.
OK,
on met ça un peu plus ludique, là.
Je comprends très
c'est,
bien.
C'est bien correct de le faire, là. Mais c'est complètement débile qu'on soit rendu
ouais,
là.
C'est ça.
Je suis renversé.
Mais pour nous aider à progresser puis à avancer, il faut comprendre aussi.
C'est la réalité,
t'sais,
là.
Tu sais, moi, je veux comprendre. Moi, je pense qu'il a vraiment fréquenté cette école-là. C'est pour ça qu'il savait qu'il y avait la porte derrière.
Oui.
L'autre affaire, pourquoi il tire uniquement cette classe-là? Moi, c'est sûr que
c'est
la FBI
hasard.
Va avoir la réponse. Hein?
C'est du hasard. Non?
Je crois pas même au hasard. Moi.
Il s'est barricadé dans la classe.
Ouais,
lui,
donc...
Il savait plus quoi faire.
Mais il crée, mais s'il
c'est
voulait...
C'est pas un gars qui résonne, là, Stéphane.
Non,
c'est
je sais.
C'est pas un gars qui
il réagit.
Sensé, là. C'est...
Mais il aurait pas eu envie, tant qu'en avoir tué 19, d'aller tuer dans l'autre classe à côté?
Probablement.
Une autre question que j'avais, est-ce que tous les élèves de cette classe-là sont morts?
Oui.
Sont morts, toute la gang?
Il semble que cette classe-là, c'est une classe complète, oui.
C'est un carnage. C'est ça, des fois, c'est des questions, c'est un peu morbide, là, mais j'aime ça essayer de comprendre.
Parce que 18 enfants dans une population de 15 000, là, c'est pratiquement toutes les familles qui sont touchées. Puis pour habiter dans ce genre de... 15 000, c'est Baie-Comeau. 15 000, c'est Bathurst. C'est des petites villes où tu nais là, puis t'habites là. Mais tu déménages pas là.
C'est ça.
C'est pour ça que 18 enfants qui sont morts, c'est le présent et le futur de cette ville-là qui est vraiment hypothéqué.
Ah, c'est l'enfer. Vraiment, c'est tragique, cette histoire-là. Donc, on a tenté de couvrir ça du mieux possible.
Moi, j'aimerais ça avoir un peu de Nicolo. Tellement beau.
Bonjour, Nicolo!
Salut!
Excuse-moi, c'est moi qui devrais peser sur le fameux piton.
Ça va?
Oui!
Oui!
Prêt pour notre soirée cinéma?
Oui, monsieur!
Il y a déjà des gens qui ont commencé à nous écrire parce qu'on va au cinéma ce soir. On va assister à la première de Top Gun. Maverick, le sous-titre,
exact.
C'est
oui.
Ça? Donc, ce soir, avec une centaine d'auditeurs de Dupont le matin qui vont être avec nous. Puis, vous allez leur faire manger du popcorn pour ça?
Absolument.
Bon, c'est gentil, ça.
Les gens qui nous écoutent, qui sont là, qui ont participé, là, je vous répète, arrivez pas à 6h15 puis 6h20 parce que justement, comme il y a distribution de popcorn et tout ça, puis on veut commencer le film le plus proche possible de 6h30, ben arrivez... si vous êtes là à 6h15, c'est parfait, on va vous prendre.
Bon, puis les gens qui ont pas réussi à gagner leur siège,
ouais.
Est-ce que eux peuvent voir Maverick au
club? Absolument, il y a des projections aujourd'hui.
Fait okay.
Ce soir, en fait.
Okay.
Version anglaise, version française. Fait que vous pouvez. Les billets sont en vente, clap.ca, vous pouvez les acheter et venir voir la suite du probablement le film grand public le plus homo-érotique de l'histoire.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Parce qu'il y a il y a beaucoup de gens et c'est même pas contesté par les cinéastes qui voient Top Gun. Certains, incluant Quentin Tarantino, qui en a fait un speech dans un film, c'est une fable sur un gars qui résiste à son homosexualité.
Ah oui?
Maverick, dans le okay. film. Il est tout le temps confronté par les autres pilotes, puis il résiste. Puis bon, tapez Tarantino Top Gun dans YouTube, puis vous allez voir son speech dans un film qui s'appelle Sleep With Me. Il est là juste pour ça. Il fait juste son petit speech de Top Gun, son interprétation. Écoute, dans le réalisateur, c'était Tony Scott. Je dis c'était parce qu'il est décédé, donc c'est pas lui qui réalise la suite. Il a même dit l'esthétisme du film, la façon de tourner les acteurs et tout ça. Je me suis inspiré d'un livre de photographie gay pour bien filmer les... Est-ce que je vais vous envoyer un coup de pelle dans la face ce matin, mais je suis pas sûr que...
J'avais jamais vu ça.
À quel point les gens savent que c'est vu comme ça par ben du monde, Top Gun. Fait que le réalisateur lui-même s'est inspiré d'un livre de photographie gay pour l'esthétisme du film, le look du film, la façon d'habiller les gars. Vous remarquez qu'il y a souvent des gars en
baleine,
torse
oui.
nu dans ce film-là. Puis quand Kelly McGillis,
la fille, ça?
La fille ça réussit fait, ça. À avoir l'attention de Maverick au début, elle est habillée comment? Elle est habillée en homme. Elle a une casquette. Les cheveux sont remontés dans la casquette. Elle a un uniforme d'homme. Ah. C'est après qu'elle dévoile qu'elle est une femme.
Toutes les affaires.
Danger Zone, ça veut dire quoi, Danger Zone?
Danger Zone. Okay. Et Maverick, c'est qui? Hein?
C'était Tom Cruise?
C'est Tom Cruise.
Oui, okay. C'est son nom de...
De pilote.
C'est son nom de pilote.
OK. Je l'ai vu pourtant Top Gun. Je me souviens qu'il y a des avions, c'est ça?
Oui, absolument. Ah.
Ça va être malade.
Bon. Hey, Nicolas, on peut-tu te poser une question à côté cinématographique encore une fois? Parce que tantôt, toujours. On a dit une ânerie, semble-t-il, au sujet des M&M et
ouais,
de
Ouais, c'est E.T. des Reese's, à mon souvenir.
Ah oui,
c'est
ouais.
des
Reese's. OK, bon, ben, c'est
dans quel film, alors,
non, pour M&M? Non, c'est donc, M&M avait refusé d'être dans E.T. Mais je vous l'ai dit, j'y vais de mémoire, j'avais pris aucune note. Et Reese's Pieces, c'est ça, aura pas dépassé M&M malgré ça. Mais ça avait été une très mauvaise décision.
Ah, okay.
Il croyait pas au film. Là, ça me revient. Là.
Okay.
Vous me dites ça. Puis, mais si je me souviens que c'était un élément clutch à l'entreprise.
À la gang, on sait tout.
Ben, c'est ça.
C'est au Clap de Sainte-Foy, en passant. Il y en a deux claps, il y en a un à Redville. On va au Clap de Sainte-Foy. C'est où était exactement le cinéma Sainte-Foy dans le temps. Ça a été remplacé quelques années par l'Académie, le restaurant. Et là, c'est redevenu un cinéma.
Good. On va être là, c'est sûr, ce soir, autour de 18h pour vous accueillir. On vient dans un instant. Avez-vous vu mon beau sourire?
Oui, super.
Arrête, tu vas faire en deux.
Non, mais je ris pas
qui,
de personne. Non, c'est je me pratique pour travailler au IGA Veilleux. Parce que chez IGA Veilleux, tout le monde a le sourire comme ça en rentrant. C'est avec un grand sourire qu'on vous accueille.
Je pensais que t'allais t'endormir dans deux minutes.
Pourquoi je m'endormir?
Ben,
je suis pas du tout fatigué.
Ben non, mais tu me dis de m'endormir en souriant.
Ah. Oui, l'as-tu essayé? Non, tu l'as pas essayé? Je te dis, essaye-le. Arrête de faire... Puis probablement que tu vas l'essayer puis ça va marcher, mais tu me le diras pas parce que t'es trop bloqué.
Je te jure que si ça marche,
okay.
Je te
le dis.
Puis là, tu vas arriver dans la nuit, j'ai mal aux joues, j'ai trop ri. Pas dormi la nuit.
Maudit sale.
Alors, chez IGAVE, c'est avec un sourire qu'on vous accueille. Aux trois endroits, hein, que ce soit Sainte-Marie, Lévis ou Saint-Apollinaire, IGAVE est là pour vous accueillir, vous conseiller, vous aider dans chacun des départements. Oui, c'est simplement l'épicerie, mais l'épicerie, c'est le fun quand il y a de la qualité, quand il y a de la variété et quand il y a du choix. Alors, IGA Veilleux, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie et Lévis, on vous accueille avec le sourire. On va vous aider. Des fois, il y a des petites recettes ou des petits trucs de cuisson pour les poissons, pour les viandes, pour les légumes. On peut vous aider dans chacun des départements. Alors, vas-y à l'abattoir, toi, là, Charlie. Fait que...
ça brasse.
Allez faire un tour. IGA Veilleux, Lévis, Sainte-Marie et Saint-Apollinaire.
Du bon le matin. As-tu deux minutes?
L'homme qui a sauvagement battu une fillette de 10 ans cet hiver dans l'est de Montréal alors qu'elle revenait de l'école est déclaré non criminellement responsable de son geste par des psychiatres. Tanvir Singh, 21 ans, fait face à des accusations de voies de fait sur la fillette sans histoire et ne subira probablement pas de procès. Et après 60 jours d'évaluation, les spécialistes de l'Institut Philippe Pinel ont conclu qu'il ne pouvait être déclaré coupable. Il va revenir en cours le 7 juin prochain. Par la suite, devrait prendre le chemin de l'Institut pour une durée indéterminée, mais on pourrait demander une contre-expertise. Donc, on aura plus de détails dans deux semaines.
J'aime pas la tournure de la phrase, pas dans le sens suivant, c'est que Pinel peut dire il n'est pas apte à subir un procès. mais qu'ils ne soient pas aptes à être reconnus criminellement responsables, c'est pas de leurs affaires. Ça, c'est la justice qui décide ça.
Ouais.
L'Institut Pinel doit dire, est-ce que ce gars-là a sa tête pour subir un procès? Mais c'est clairement non, là. Par exemple, ça, je le comprends. Mais ils n'ont pas à dire qu'il ne sera pas reconnu. Ça, c'est un jury ou un juge qui va déclarer ça.
S'ils vont en procès, bien
c'est
sûr.
Ça. C'est ça.
Ouais,
si
mais
ça
là, se rend pas... Non, il n'ira pas. Il n'est pas apte à subir un
voilà,
procès.
Voilà, exact. Mais je comprends, la nuance est intéressante, c'est vrai, en termes de droit. Là.
Mm-hmm.
Bon, on a parlé de la tuerie au Texas il y a un instant avec Philippe Bonneville. Simplement vous dire que ça a quand même encore des répercussions partout, mais ici, au Québec et au Canada, bien sûr, François Legault qui a demandé à Ottawa de resserrer le contrôle des armes de poing. Justin Trudeau a dit, on est tous d'accord avec ça. On est en processus pour y arriver, mais on n'a pas d'échéancier, on n'a pas de mesures concrètes à annoncer nécessairement en lien avec ça. Mais ça continue, bien sûr, de faire jaser les politiciens ici aux quatre coins du pays.
Le projet de loi 38 sur l'élargissement, en fait, de l'aide médicale à mourir fait jaser. Donc, le projet de loi a été déposé hier. Il y a un ajout qui change tout. Donc, l'élargissement aux personnes atteintes de handicap neuromoteur grave, chose qui n'avait pas été discutée en commission parlementaire, qui s'ajoute au projet de loi, qui pourrait retarder le tout parce qu'on pourrait demander, en fait, des consultations supplémentaires aux groupes concernés, soit les associations de personnes handicapées. Et le temps presse parce que la session parlementaire se termine dans 2 semaines.
Et COVID, -7 dans les hôpitaux, donc 1344 personnes qui sont hospitalisées, mais je veux vous mentionner le nombre de décès. C'est encore 20 et un nouveau décès pour la journée d'hier.
Tyler Bozak a marqué le but gagnant en prolongation. Les Blues de Saint-Louis évitent l'élimination hier, un gain de 5-4 contre l'Avalanche au Colorado. La série toujours menée 3-2 par l'Avalanche. Ce soir, 2 séries se poursuivent. Les Rangers en Caroline, série égale 2-2. Et Edmonton, en avant 3-1, visite les Flames à Calgary. Hockey junior, victoire des Remparts 3-2 contre les Cataractes de Shawinigan. C'est le défenseur russe Siva Kamarov qui a marqué le but gagnant dans la dernière minute de jeu. Il a appelé à commenter, à expliquer comment il a marqué son but. Vrai comme je suis là, il a répondu, Siva, touch puck, go shot, puck on net, in goal. Faut savoir que son anglais s'améliore depuis le début de la saison, puis il fait des efforts.
Ça, c'est l'entrevue d'après-match que oui, vous avez diffusée hier.
Exactement. Oh, ouais. Écoute, il a expliqué comme il pouvait, puis c'est exactement ça qui s'est passé. Alors,
touch
c'est
puck.
Pas compliqué. Touch puck, go shot, puck on net, in goal.
Et le descripteur riait un petit peu pendant l'entrevue.
Ça a pris
là.
Ses 10 mots. 10 mots pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On a compris.
Puis avec le grand sourire.
Ah oui, on lui a vu les dents au sympathique défenseur russe hier.
Patrick, lui, était-tu de bonne humeur?
Très heureux.
Oui.
Très heureux. Ben, son équipe n'a pas joué un excellent match. Là.
Ouais.
Des correctifs à apporter, mais
ses meilleurs joueurs n'ont pas sorti.
Ça fait quelques matchs, d'ailleurs, que le trio de Théo Rochette et Zachary Bolduc ne produit pas. Éventuellement, il va falloir que ce trio-là produise si les Remparts veulent continuer dans les séries. Mais c'est un club qui a beaucoup de profondeur. C'est ce qui leur permet de gagner présentement. Et c'est ce qui leur permet d'éliminer l'Océanique.
Qui garde les gars, garde les buts? Hein?
William Rousseau.
Ah oui, c'est bon. Il est prêt à pau, là?
Oui, je dirais oui. Les 3 derniers matchs, il a été bon. Mais ça peut changer encore.
Oui.
Changer encore. Une recette gagnante, tu ne changes pas ça. Donc, normalement, c'est lui qui va garder les buts ce soir, William. Mais on n'est pas à l'abri d'un changement. Surtout pas. Les Cataractes sont coriaces.
Bon.
Le Rocket de Laval accède au prochain tour éliminatoire. Un gain en 3e période de prolongation, 6-5 contre les Americans à Rochester. Puis, bonne nouvelle pour les organisateurs de l'Omnium canadien de golf qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, comme bien des événements d'ailleurs à cause de la pandémie. C'est dans la région de Toronto et Justin Thomas a confirmé ce matin sa présence au tournoi qui a lieu dans 2 semaines, du 9 au 12 juin prochain.
Il est même pas bon.
Non.
Il est même pas bon.
Il va s'essayer, là.
À la météo, ben c'est une recette perdante parce que il annonce de la pluie pendant 2 jours. Aujourd'hui, ça va être momentané, donc ici et là, mais demain, ce sera de façon plus intense et ça devrait s'estomper samedi en avant-midi, mais c'est gris et c'est de la pluie et c'est 15 au maximum pour chacun des 2 prochains jours.
As-tu 2 minutes? Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Leur service légendaire est couvert par les bonnes compagnies d'assurance. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Ah oui, c'est ça. Je me suis trompé de piton.
Dans un instant, on va parler sexe avec Anne-Marie Ménard au lit avec Anne-Marie. Mais juste avant, Nico, toi, tu veux nous parler d'un endroit où il est hyper dégueu.
Travail.
Au travail.
Et c'est les gens de... C'est la section santé et sécurité au travail de Kimberly-Clark, qui est une grosse compagnie pharmaceutique qui se sont penchés là-dessus. Ils ont pris des échantillons, 5000 échantillons, dans les espaces de travail des gens, parce que on dit souvent, si je vous demande au bureau, Les endroits qui ont le plus de germes et bactéries, vous allez dire quoi naturellement?
Poignée de porte.
Poignée de porte, ouais, clavier.
Bouton d'ascenseur.
Toilette.
Ouais, la salle de bain ici, la salle de bain, là, c'est-tu ouais, assez dégueu?
On n'a même plus d'eau pour se laver.
Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien.
Je pense que les
vous autres, vous avez un, voyons pas un toit, mais
un plafond.
Nous autres, il en manque un bout, là.
Ouais, en plus, c'est ça. Non, je te dis, il y a des gens qui sont en
vrai. Hey, l'immeuble ici, ça va pas bien.
Oui, ça va faire une levée de fonds en Ukraine, je pense, pour aider ici.
C'est pas des farces, là. L'immeuble ouais. est à ce point dévasté.
Mais ça fait 10 ans qu'il y a des réparations non-stop dans l'immeuble ici aussi, là, puis ça avance pas tant que ça.
Il faudrait peut-être en finir une avant d'en commencer d'autres.
C'est vrai pareil, hein. Ah ouais, ça fait longtemps. Le premier étage, là. Il est sur le rough depuis un christi de bout de temps.
On pourrait faire du patin à roulettes au deuxième. Il y a deux, trois bureaux de vide, ils sont sur le ciment.
Ah oui, c'est le deuxième, excuse-moi. On a commencé par le premier, là, c'est le deuxième.
Je voulais dire, si tu veux t'ouvrir un studio de production vidéo, là, il y a de l'espace ici.
Il y a de l'espace.
Tu serais juste à côté de chez vous.
Okay.
Alors, l'endroit le plus germeux, le plus bactérique, j'invente deux mots.
La machine à café.
Tu t'approches déjà beaucoup.
Le micro-ondes.
C'est la tous les endroits où il y a où on fait de la bouffe.
OK.
Et particulièrement la poignée du micro-ondes, c'est l'endroit le plus sale au bureau. Pourquoi? Ben vous êtes capable de deviner. D'abord, il passe plein de monde, puis il y a de la bouffe. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui lave le micro-ondes une fois de temps en temps? D'après moi, non.
OK.
Puis la personne dont le lunch a éclaté, là, voilà. Il ramasse pas. Là.
Non, puis là, il y a de la cochonnerie de bouffe sur ses mains quand il prend son plat, puis il referme le micro-ondes, puis là, ça reste là, puis ça développe des bactéries. Ainsi de suite. On mais rajoute les bactéries de tout le monde.
On fait toute la même affaire pour savoir si ton lunch est chaud. Là.
Ouais.
Tu trempes un peu le doigt dedans.
Ouais. Ah oui? Ben faites ça, vous autres?
Ouais. Ah, moi, je goûte.
Ouais, mais. Ah, ouais, tu prends
le chien. Je vais manger cru. Si je suis pour dîner ici, je vais manger cru.
Cru.
Oui, c'était probablement mieux. Effectivement. Fait que, il y a peut-être une leçon là à tirer, c'est-à-dire, un, ramassez-vous si vous vous servez. Puis, je blâme pas personne parce que tu l'as dit, Karen, on fait toutes la même affaire. On est pressé, on est au bureau pour manger, fait qu'on fait chauffer notre lunch le plus vite possible pour retourner s'asseoir ou travailler ou peu importe. Fait qu'on nettoie pas, on ramasse pas qu'est-ce qui déborde de notre plat. Puis là, ben la prochaine personne fait la même chose, la prochaine personne fait la même chose. Ici, le micro-ondes fonctionne de 11h15, 11h30 le matin jusqu'à 2h à peu près l'après-midi parce que les gens font ça
ils vont dîner décalé. En décalage.
Fait que il y a un bon 3-4 heures où le micro-ondes sert puis je vous dis j'ai fait le test ici. J'ai échappé une chip au maïs en dessous de mon bureau. Puis les miettes sont restées là au moins une semaine. Fait que s'ils lavent pas les planchers tout le temps, d'après moi, ils font pas les micro-ondes.
Ouais, pis t'sais, mais ça au bureau, me semble que, t'sais, surtout quand t'es dans des espaces partagés,
ouais.
T'sais, t'as pas le droit. Je me souviens d'à d'autres endroits, là, où la vaisselle pouvait traîner, il y avait comme un évier commun, là. Mm. Fait qu'il y a du monde qui mangeait. Oui, c'était peut-être leur propre ustensile, mais on les lavait la prochaine fois. Ça pouvait rester là puis moisir là pendant deux jours. C'était dégueulasse. Me semble dans des endroits partagés, ça serait chacun notre responsabilité. Puis vous le savez, même ici, pour le studio, moi, j'étais un peu minutieux là-dessus, que quand on part, je veux qu'il soit dans l'état exactement qu'il était avant qu'on arrive. Puis, c'est pas le cas. Des fois, on arrive, nous autres, le lundi, puis ça a été chamboulé de bout en bout. J'ai de la misère avec les gens qui respectent pas les espaces partagés. C'est pas simplement eux. Qu'ils soient des cochons chez eux, j'en ai rien à foutre. Mais quand tu utilises un endroit partagé, même chose que quelqu'un d'autre...
Pense aux autres.
Ben oui, pense-y. Là. Ouais. Fait que...
Ça a l'air que Vez, il lave des fois le micro-ondes.
Merci, Vez. T'es old school.
Ouais, oui, c'est old ça. C'est un old school. C'est un vrai, lui, monsieur Net, monsieur Vez, je veux dire.
Fait que,
il y a plusieurs talents qui se perdent ou qui ont jamais été développés. Vois-tu, Vez? C'est le gars que tu peux appeler pour monter des meubles IKEA. Il aime ça, puis il va venir t'aider, tu sais.
OK.
Ça, c'est rare, puis il lave le micro-ondes au bureau. Vraiment, faut pas le perdre.
Puis il garde des chiens. Pis mais faut pas le perdre, pourquoi? Il est-tu en danger de mort?
Non,
mais il faut faire attention pour le préserver, notre beau Vez. C'est ça qu'on veut dire.
Bon, on va s'arrêter parce que j'ai plus de batterie. Fait que
tu parles de ton écouteur ou de toi?
De mon écouteur.
Ah, okay.
On s'arrête quelques instants et oui, on va parler avec Anne-Marie Ménard. On parle de sexualité de couple.
Dans la chambre à coucher avec Steph et Anne-Marie.
Et aujourd'hui, on va vraiment impliquer la chambre à coucher dans votre maisonnée, dans le sens où quelle importance ou quelle présence, puis ça fait quoi, quelques minutes qu'on est en pause, et le sujet avait déjà pris de la vigueur ici, là, entre les belligérants, hein?
Le sujet a levé.
Ben oui, même Kiwi est venu s'en mêler. Fait que dans ce temps-là, ça prouve que ça titille la curiosité des gens. On va aller rejoindre notre intervenante et coach en sexologie, Anne-Marie Ménard. Anne-Marie, bon matin.
Bon matin, je m'étais ennuyée.
Ben moi aussi, je me suis ennuyée. Puis d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Je me suis dit comment ça a été sa cure de silence. Comment ça s'est passé finalement?
Mais là, j'arrête pas de parler depuis que je suis sortie. Là, je me rattrape.
Ah oui, OK. Mais ça a-tu bien été? T'as-tu trouvé ça difficile?
Ça l'a vraiment bien été. Ça m'a fait du bien. Les trois premiers jours en silence, là, je me disais, wow, j'ai la grosse paix. Pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. La première fois que j'avais été, j'avais trouvé ça extrêmement difficile au point où j'étais pas certaine de vouloir y retourner. Mais cette fois-ci, l'expérience a été vécue vraiment différemment. J'ai adoré mon expérience. Ça a fait vraiment là, tout un espèce de nettoyage. Mais malheureusement, il a fallu que je sorte d'avance. J'ai fait une appendicite.
OK.
Donc, j'ai pas complété le 10 jours. J'ai fait 8 jours. Mais ça a été 8 jours merveilleux.
OK. Est-ce que on ressort avec des idées plein la tête à tout? Tu sais, tu repenses à ce que tu fais dans la vie, à ta vie personnelle, professionnelle. Est-ce que tu sors de là avec plein d'idées ou c'est vraiment plutôt un repos et un vide?
C'est les deux. J'ai l'impression que les premiers jours pour moi ont été vraiment un repos. J'ai dormi beaucoup aussi entre les séances de méditation. Mais après ça, il y a la créativité qui s'est allée. On a comme plein d'idées, là, des idées d'entreprise, des idées de ce que tu vas faire. T'as hâte de parler là, avec les gens autour de toi puis de mettre en application ce qui va monter durant ton séjour. Les deux fois, ça m'a fait ça. Je ressors de là plein d'idées. Puis je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas de distraction. Tu sais, on n'a pas de téléphone cellulaire. On discute pas avec les autres autour de nous. On est vraiment avec nous-mêmes. Donc, il y a une espèce de...